tranche de vie, vagabondage sans prétention dans nos existences. Chers auditeurs de Tranche de Vie, aujourd'hui je suis au bout du monde, non pas en Patagonie, mais tout près de Périgueux, à une dizaine de minutes de Coulounier-Chamiers, sur la commune de Cressinsac, Épisseau. Et je suis chez Véronique Vialard et Olivier Candon, qui sont des artisans vignerons. Je ne vais pas leur demander « Tonton, tonté, t'a-t-il guéri tatou ?» mais je vais leur demander « Vaillant vigneron, quel vin voulez-vous vraiment valoriser ?» Véronique, comment êtes-vous arrivée à devenir un artisan vigneron et quel est votre rôle à l'intérieur de l'exploitation que vous faites marcher ?
Alors, je suis œnologue de formation, c'est-à-dire que j'ai été diplômée du diplôme national d'œnologue en 1995, une formation que j'ai toujours voulu faire. J'ai toujours voulu être œnologue du plus loin que je me souvienne, c'est-à-dire vers 14-15 ans, j'ai voulu faire ce métier. Bon, je suis originaire du Médoc et de Bordeaux, donc ça a peut-être un peu contribué à ça. Après ce diplôme national d'œnologue, j'ai fait ce diplôme pour aller dans la production. Donc j'ai travaillé sur différents domaines en production, directrice d'exploitation. Et je suis arrivée en Bergeracois en 2002 pour prendre la responsabilité d'un domaine au sud de Bergerac. Finalement, ce domaine a été revendu 6 ans après mon arrivée ici. Et je me suis retrouvée sans travail de responsable de domaine. Je me suis installée un petit peu en consultante conseil auprès de vignerons. Mais la production me manquait trop. Donc avec Olivier, Olivier a commencé à me chercher un petit lopin de terre pour que je puisse retrouver mes amours premières, à savoir des pieds de vigne, des bottes, des tuyaux, des cuves et du vin. On cherchait un petit lopin. Et puis finalement, par le concours de rencontres, avec des gens sur les marchés qu'Olivier fréquentait, on a eu vent de la mise à disposition de ce domaine qui cherchait un repreneur, parce que l'ancien employé était parti et laissant tout en plan. Donc on est venu ici septembre 2014 pour faire connaissance des lieux, etc. Mais en fait, faire connaissance, dès qu'on est arrivé ici, bon, ça a été un coup de foudre entre le vignoble et moi, et puis Olivier aussi. Et du coup, on a repris, dès début 2015, on a repris ce vignoble et on s'en occupe avec amour depuis.
Et vous avez décidé que cette vigne, elle est quand même, c'est quand même une rareté. Parce que dans la région, là, presque tout a disparu. Donc vous avez voulu le conserver. Est-ce que ce domaine, il est viable ? Est-ce qu'il est suffisamment étendu pour que vous puissiez vous livrer à vos activités ?
Alors c'est ça qu'on a aimé, c'est sa petite dimension, d'avoir une ferme à taille réduite qui nous permet de travailler. Bon, tout de suite, on a entamé une conversion vers l'agriculture biologique et avec une commercialisation des bouteilles dans un rayon assez restreint pour avoir une continuité dans cette idée de pas trop d'empreintes carbone sur nos bouteilles, d'avoir un respect de l'environnement, etc. Et la taille de ce domaine nous permet de faire ça. C'est sûr que quand on produit entre 10 et 15 000 bouteilles, on arrive à les distribuer en local essentiellement. Tandis que si on avait 40 hectares et qu'on faisait 200 000 bouteilles, bah là on devrait partir à l'étranger, etc. Donc particulièrement, le côté excentré par rapport au gros vignoble de Bergerac, nous, ça nous plaisait d'être un peu des dissidents, un petit peu en quelque sorte, de cette uniformité un petit peu du vignoble de Bergerac. Nous, ça nous permet de faire vivant heureux, vivant caché. On est un petit peu ici, tranquille, sans la pression des voisins et tout ça, même si, bon, Olivier s'en fiche un peu plus que moi, mais de ne pas être dans le commun avec tout le monde. Ce côté un petit peu à part, c'est bien. Et puis de faire continuer à vivre, justement, ce petit vignoble qui subsiste ici en à côté de Périgueux, justement. En effet, avant, dans le temps, chaque ferme avait ses 3 rangs de vignes et une culture de la vigne. Mais ça a disparu. Et la qualité de ce vignoble ici, qui a été planté par quelqu'un qui a été replanté dans les années 90, en conservant certaines vieilles parcelles, il est parfait parce que c'est en densité élevée, donc c'est qualitatif pour la production de raisins. L'encépagement est intéressant. Et puis après, on a des locaux et des moyens techniques au niveau du chai, etc., qui sont très intéressants aussi. Donc oui, on a une production de grande qualité, et pas que par notre travail, par aussi le lieu, le sol, le terroir, la climato qui n'est pas la même qu'à Bergerac, enfin, plein de choses comme ça différentes qui sont passionnantes.
Alors on va quand même donner un peu la parole à Olivier pour qu'il nous dise, puisqu'on sait déjà beaucoup de choses, pour qu'il nous donne un petit peu les caractéristiques de ce domaine du bout du monde. Quels sont les cépages, quelle est l'étendue, quel est le rendement, et puis je crois savoir que vous avez beaucoup d'autres activités de valorisation ou de vulgarisation de la viticulture autour de votre propre activité de vigneron.
Oui, alors ici nous avons 3 hectares et demi de rouge, essentiellement plantés en Merlot, et on a aussi du Cabernet Franc et du Cabernet Sauvignon. Donc la spécificité de ce vignoble, c'est qu'il est à forte densité, comme l'a dit Véronique, c'est-à-dire qu'on est planté à 1,80 m en vigne basse, ce qui est plus qualitatif aussi. Que dire d'autre ? Alors notre spécificité à nous, c'est qu'on ne travaille pas les sols et on tond sous le rang. Voilà, souvent les gens labourent entre les rangs et nous on a choisi d'éviter cela pour préserver toute la vie qu'il y a dans le sol. Et ça se passe bien. Ensuite, au niveau des autres activités, donc on a notre production de vin et on fait un peu, enfin pas mal même, de nos tourismes. Donc on propose des visites, mais pas de la visite rapide, des visites assez longues avec un tour dans les vignes où on explique notre façon de travailler, le pourquoi du comment, avec une explication ensuite dans la cuverie sur nos modes de vinification. Nous faisons aussi donc des ateliers dégustation animés par Véronique bien sûr, avec des initiations à la dégustation et des ateliers assemblage, donc qui consistent à faire ce que nous faisons nous, donc avec la palette des vins que nous vinifions, nous faisons des assemblages pour créer nos différentes cuvées, et là nous proposons donc aux gens de faire exactement la même chose dans une éprouvette et de repartir avec sa propre cuvée, suivant s'ils désirent avoir des vins boisés, tanniques, légers. Voilà, chacun propose sa propre cuvée.
Et vous avez quel public alors pour ces ateliers d'initiation ?
Alors absolument tous les publics. C'est quelque chose qui plaît beaucoup. On a tous les âges, on a toutes les classes sociales, on a vraiment des gens qui sont intéressés par le côté créatif du vin, quoi, qu'on peut rarement découvrir. On découvre souvent le travail de la vigne, le travail du chai, mais rarement le côté créatif qui est très important pour pouvoir faire différents vins sur un même terroir et sur des mêmes parcelles.
Alors ce parti pris de culture biologique avec des vignes qui ne sont pas labourées, avec une attention portée à l'absence de traitement autre que des traitements qui sont non nocifs, c'est quelque chose que vous avez fait dès le départ ou bien qui vous est venu ensuite ? Enfin, Véronique l'a un petit peu évoqué, mais est-ce que vous pouvez préciser un peu comment ça s'est organisé ?
Comment ça s'est organisé ? Oui, on a fait ça dès le départ. Donc
excusez-moi, mais quand vous avez trouvé votre vignoble, il était à l'abandon ou est-ce qu'il était encore entretenu ?
Alors non, il était bien entretenu. Mais il était travaillé en conventionnel, c'est-à-dire donc avec des produits chimiques et le fameux glyphosate sous le rang, quoi. Donc nous, c'était hors de question qu'on travaille comme ça. Donc on est passé tout de suite, on a arrêté les produits chimiques, donc on traite uniquement contre les champignons, dont le fameux mildiou, on traite uniquement à base de bouillie bordelaise, cuivre et soufre. Et sous le rang, donc on tond l'herbe, quoi, au lieu de mettre du glyphosate. Nous n'avons pas travaillé les sols, parce que c'était une façon de travailler qui nous intéressait. C'était pas du tout dans une optique de ne jamais le faire, mais les résultats sont bons, donc pour l'instant, on ne le fait pas, quoi. Et ensuite, il y a donc beaucoup de travail d'observation à la vigne. Le fait de ne pas travailler les sols, ça permet d'avoir un enherbement général sur toutes les parcelles, donc avoir une biodiversité très nombreuse, beaucoup d'insectes, et qui régule eux-mêmes les ravageurs quand ils arrivent sur la vigne, quoi.
Véronique, vous êtes deux. Combien êtes-vous pour travailler en fait ce domaine et à quel moment votre effectif s'accroît-il ? Parce qu'il y a évidemment la récolte, je suppose que vous avez besoin de main-d'œuvre supplémentaire, mais il y a toute la taille aussi. Comment ça s'organise, votre exploitation ?
Alors, on est deux. On est deux la plupart du temps. Sur les trois premières années, on était vraiment que tous les deux, sauf au moment des vendanges, bien sûr, où on constituait deux équipes de vendanges pour arriver à ramasser tout au moment opportun, tout ce que l'on voulait. Depuis, maintenant, ça fait 7 ans qu'on est sur le domaine, donc depuis 4 ans, on prend des aides saisonnières pour certains travaux. La taille, non. On s'en occupe tous les deux parce que c'était vraiment tellement une partie importante, précise, et puis on veut le faire comme nous, on veut le faire. Et une intervention extérieure n'est pas... Moi, ça me frustre un peu. Enfin, j'ai besoin d'y être à ce moment-là. J'ai besoin de le faire moi-même ou de le faire avec Olivier. Le tirage des bois, donc une fois qu'on a taillé pour enlever les bois du palissage pour les mettre dans le rang après qu'ils soient broyés. Donc ça, on le fait faire maintenant depuis 2-3 ans. Ou alors c'est Olivier qui s'y colle un petit peu pour compléter. Et après, tous les autres travaux, on le fait en général... Nous deux, 3,5 hectares, ça se fait assez facilement, assez tranquillement. Maintenant, c'est vrai que quand on prend du monde en plus, c'est pour libérer sur les tâches qui sont un peu plus faciles à faire, pour que soit Olivier, soit moi, nous concentrions sur des petits détails supplémentaires, des petites touches encore plus amélioratives des choses. Voilà.
Merci Olivier. Vous ne nous avez pas dit comment vous étiez arrivé à devenir vigneron. Véronique nous l'a expliqué, son itinéraire, le vôtre, qu'est-ce que ça a été ?
Alors moi, mon itinéraire dans ma vie, depuis toujours, c'est un peu l'improvisation.
On ne s'improvise pas vigneron quand même.
Non, on ne s'improvise pas vigneron, on rencontre une œnologue, et petit à petit, on travaille dans le domaine du vin, et quand l'opportunité arrive, eh bien, on devient vigneron.
On lui achète un vignoble.
Voilà. auparavant, vous étiez quand même déjà inséré dans le milieu rural ou dans des activités en milieu rural ?
Oui, alors j'ai vécu pas mal à Bordeaux, j'ai travaillé dans quelque chose qui je ne pourrais plus faire maintenant, mais dans la grande distribution. Et après, sur Bergerac, j'ai fait beaucoup de marchés où je vendais les vins bio des copains, quoi. J'ai eu une cave à vin aussi.
Déjà un pied dedans depuis longtemps. Il faut combien d'années pour apprendre à tailler correctement une vigne ? Parce que moi, ça m'épate toujours de voir les gens dire « ben voilà, ça je vais le supprimer, ça je vais le garder
». En fait, on n'a jamais fini d'apprendre. Parce que déjà, chaque année est différente, de nouvelles techniques apparaissent, et puis si on s'intéresse vraiment à ce qu'on fait, on peut découvrir de nouvelles techniques, de nouvelles façons de faire qui peuvent être très intéressantes. Et donc, on s'y met, on se forme, on va faire des stages, donc on est... continuellement en train d'apprendre, surtout pour la taille.
Pour la culture de la vigne en bio, j'imagine que maintenant, il y a tout un réseau de vignobles comme le vôtre, et que tout ça est en connexion, c'est-à-dire que vous échangez des expériences. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que vous travaillez isolé ?
Ah non, c'est, alors dans le milieu des vignerons bio, c'est une grande amitié, une grande solidarité. Et on est constamment en train de picoler déjà, mais en train d'échanger nos façons de faire, c'est un partage continuel. Ouais.
Alors, est-ce que vous pouvez maintenant, je vais revenir vers Véronique, nous dire un petit peu quelles sont vos productions ici, au bout du monde ? Puis nous parler un petit peu de rendement et nous dire quels sont les différents produits que vous élaborez.
Alors, au bout du monde, on produit 2 blancs et... entre 4 et 6 rouges. Ça va dépendre un petit peu des années. Globalement, quand même, on a 2 cuvées en blanc et 4 cuvées en rouge qui sont fixes. On a des rendements qui ne sont pas forcés, ni limités, ni amplifiés. C'est-à-dire qu'on prend ce que la vigne nous donne. Si elle veut nous donner que 20 hectohectares, parce qu'elle est soit âgée, soit fatiguée, soit que c'est l'année de millésime qui fait ça, on prendra les 20 hectohectares.
Ce qui est considéré comme un petit rendement ?
Un petit rendement, oui. À Bergerac, par exemple, le rendement maximum est celui dans lequel les gens travaillent. En rouge, c'est 55, en blanc, c'est 65. D'accord ? Voilà. Nous, ici, sur les rouges, on va de 25-30 hectohectares dans les plus vieilles parcelles, qui sont bien sûr arrivées ça, moins efficaces, moins gros rendement, à des parcelles qui nous font du 45-50 hectohectares, qui est à la fois viable... pour la plante est viable économiquement. Voilà. Donc les cuvées qui en découlent, suivant l'origine des parcelles, des raisins et des cépages, on a 4 cuvées. Une cuvée qui est 100% merlot, très sur le fruit, très, assez tonique, assez fraîche. Voilà, depuis 2018, on pourra le redire après, mais depuis 2018, on travaille sans sulfite ajouté, sur le principe. Alors, on n'est pas des ayatollahs anti-sulfite, mais c'est amusant, ça fait un challenge supplémentaire au niveau de la vinification dans le chai, etc. Donc, on part sur le principe qu'on part sans sulfite. Si jamais à un moment le vin bascule ou est un petit peu en danger ou se fragilise, bien sûr qu'on lui donne son petit médicament qui lui va bien, qui l'aide à se tenir droit et en bonne santé. Voilà, c'est pas systématique, c'est comme les antibiotiques. En fait, si vous mettez des sulfites, ça permet de se protéger d'avance. Voilà, contre l'oxygène ou contre les micro-organismes. Alors, c'est à la fois les amis, à la fois les ennemis.
Il y en a qui interviennent, mais il y en a...
Voilà, c'est ça. L'oxygène, on en a besoin, mais l'oxygène, un jus de raisin sans intervention humaine, ça devient du vinaigre, automatiquement, par la présence de l'oxygène. Donc, mais l'oxygène, en même temps, il aide à faire évoluer le vin, à le faire devenir plus ample, plus agréable à déguster. Donc, c'est entre les deux qu'il faut un peu, mais pas trop, comme un poison, quoi. C'est la dose qui fait la différence. Et pour les micro-organismes, oui, on a besoin de certains micro-organismes pour faire la fermentation alcoolique, pour faire la fermentation malolactique. Mais après, il y a des mauvais micro-organismes qui peuvent entraîner des déviations aromatiques, bactériennes, etc. Donc, les sulfites permettent de trier, tuer tout ce qu'on veut pas. Et nous, on essaye de faire par un peu plus en médecine chinoise. Rester en bonne santé pour ne pas tomber malade.
Alors, quelle contrainte ça vous vaut, ça, le parti pris de dire, ben, nous, on ne mettra pas de sulfite, sauf si vraiment c'est absolument indispensable.
Pour travailler sans sulfite, il faut déjà avoir à la vigne des raisins très sains, très beaux, bien mûrs, mais pas trop. Au chai, une hygiène assez irréprochable. Et puis après, il faut avoir une connaissance technique, microbiologique et chimique du produit pour pouvoir anticiper. Il faut être vraiment, vraiment dans l'anticipation pour pouvoir et être vigilant à la moindre... savoir les risques que l'on prend pour pouvoir les éviter. C'est vraiment la seule façon de faire.
Est-ce que je me trompe si je dis que fabriquer du vin sans sulfite, ça demande beaucoup plus de travail que fabriquer du vin en mettant du sulfite ?
C'est beaucoup plus challengé, parce qu'il n'y a pas les béquilles œnologiques pour se rattraper si besoin. Donc ça demande plus de travail et en tout cas beaucoup plus d'attention. Et on est vraiment dans la prévention, dans la prophylaxie, dans la prévention tout le temps. Donc être vigilant, bien déguster, ne pas se dire « oh ça va, j'en ai mis, donc maintenant je suis tranquille pendant 2 mois ». Donc ça veut dire qu'il faut revenir sur le produit très régulièrement pendant les vinifications et après pour être sûr de ne pas le laisser déraper et partir en mauvaise procédure.
Tant qu'on a l'œnologue sous la main, est-ce que vous êtes capable à la dégustation de distinguer un vin qui a reçu une bonne ration de sulfite et votre vin qui n'en reçoit pas ?
Alors, sans doute qu'à l'aveugle, non, je me ferai avoir comme tous les copains. Hein. C'est pas vraiment reconnaissable. Après, s'il y a de fortes doses de sulfite, comme dans certains vins conventionnels qui sont vraiment chargés, là oui, parce qu'on le perçoit aromatiquement. Ça se sent, ça a une odeur, les sulfites quand même. On peut l'avoir au nez, on peut l'avoir en bouche par un côté un peu brûlant et asséchant. Maintenant, c'est vrai que les doses de sulfite, même chez les conventionnels, ont nettement diminué. Hein, donc, c'est plus vraiment perceptible. Après, de temps en temps, ça lisse, ça enferme un peu le produit. Donc nous, on a des vins qui sont un petit peu plus vivants, un peu plus nature, un peu plus, j'allais dire, pas sauvage, parce que ça peut être mal interprété, le côté sauvage, mais c'est vraiment des vins qui n'ont pas d'artifice pour les tenir encadrés dans un cadre bien, bien rigide, quoi. Mais ça ne fait pas une différence. Moi, je trouve que ce n'est pas vraiment une différence à la dégustation. Nous, cette décision, on l'a prise aussi parce que quand ça fait 25 ans qu'on fait du vin, si à chaque fois les raisins ils arrivent des mêmes parcelles, c'est les mêmes cépages, ouais, la climato a changé, etc., donc un effet millésime, mais ça arrive, je mets des sulfites, puis après on met des levures, puis après on met un tel produit. Finalement, c'est une recette qui se reproduit à toute... Bon, à ce moment-là, je vais fabriquer des yaourts, hein, ça sera aussi vite
donc,
fait.
Donc chaque année, vous avez un vin qui est nouveau.
Oui, voilà. Bon, pour tout le monde, parce qu'il y a
légèrement différent de toute chose égale d'ailleurs.
Voilà. Et puis moi, ça m'amuse beaucoup plus maintenant, après 25 ans d'avoir fait du vin un peu plus... Bon, ça fait plusieurs années que je fais des vins déjà un peu plus naturels, mais le sans sulfite est arrivé et ça fait une aide de moins, donc il faut un peu plus assurer derrière, il faut être encore un peu meilleur. Et donc je trouvais ça très challengeant et ça m'amusait de partir là-dessus. Et ce n'est pas tant pour le produit fini, c'est aussi pour moi pour continuer à m'amuser dans mon métier. Un nouveau petit défi.
Olivier, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre travail de vigneron ? Est-ce que c'est les soins apportés à la vigne ou est-ce que c'est la vinification ?
C'est une réponse facile.
entendons-nous bien, je sais qu'à l'issue de la vinification, ou même peut-être pendant, il faut goûter. Alors ça, c'est que ça peut être attirant.
Oui, ça c'est pas désagréable. Mais en fait, c'est l'ensemble, c'est tout le côté global du travail de vigneron. C'est le travail à la vigne, pour arriver jusqu'à avoir de très beaux raisins, le travail au chai. Ensuite, il y a tout le côté créatif des assemblages. Ensuite, c'est tellement complet, il y a la création d'étiquettes, trouver des noms pour les cuvées, et la commercialisation. Voilà, que nous, on veut aussi assez cibler, éviter la grande distribution. Voilà, donc c'est vraiment le travail dans sa globalité qui est passionnant et intéressant. Il n'y a pas un côté, il faut que tout soit le mieux possible, quoi. Si on fait du très bon vin mais qu'on ne sait pas le vendre, ça ne va pas être viable. Si on fait du mauvais vin mais qu'on sait...
C'est là qu'intervient votre expérience passée dans la commercialisation.
Oui, entre autres. Entre autres. Mais c'est un plaisir de vendre un produit qu'on a fabriqué et créé nous-mêmes, quoi. C'est plus de la vente pure, quoi. C'est plus du partage et faire découvrir ce qu'on a fait et ce qu'on aime. Oui. C'est donc plus facile aussi.
Oui, ce qui est aussi réalisé dans vos ateliers, quoi. Mettre les futurs consommateurs ou les actuels consommateurs à la rencontre de vos productions.
Voilà, tout à fait.
Alors maintenant, je voulais vous poser une question aussi qui me taraudait. Est-ce que votre vignoble ici, il est en appellation Bergerac? Non.
Et non. L'aire d'appellation Bergerac va au sud de Bergerac et puis jusqu'à l'Ambra pour le Pécharmant.
Il y a une aire d'AOP qui
voilà, qui est une aire géographique délimitée. Oui. On va jusqu'à Véline, on va jusqu'à Côme de la Barde, voilà.
Qui ne vient pas jusqu'ici.
Et qui ne vient pas jusqu'ici. On est bien 30 km au-dessus de cette aire géographique délimitée dans laquelle on peut produire des AOC, une des 13 appellations du Bergeracois. Donc nous ici, comme on est quand même en Périgord, on est quand même en Dordogne, on bénéficie de l'indication géographique protégée, IGP, anciennement les 20 pays. Ah, donc en fait on produit, voilà, en 2008 ça a changé, les 20 pays sont devenus les IGP, indication géographique protégée, et on produit du Périgord du coup, ça s'appelle 20 pays du Périgord. Donc c'est tellement joli en plus. Bon, nous on n'était pas très emballés de, comme on disait tout à l'heure, on est bien, on est à part, donc c'était pas pour faire du Bergerac comme tout le monde. Donc par la force des choses et par c'était notre choix et puis la force des choses qui a fait que notre choix s'est validé là-dessus. On fait du vin de pays du Périgord uniquement avec quelques cuvées même en vin de France, les anciens vins de table. Mais là c'est aussi pour avoir une liberté et sans être mis dans une case, dans une ligne où il faut pas trop dépasser.
Est-ce que vous ressentez, vous, alors on va passer maintenant peut-être à des choses moins joyeuses. Est-ce que vous ressentez l'influence des modifications climatiques dont tout le monde parle, que tout le monde s'accorde à reconnaître qu'elles sont en marche, avec l'expérience et le recul que vous avez sur votre exploitation? Est-ce que ça influence votre activité?
Ah oui, oui, ça influence beaucoup notre activité. Sur la vigne, ça influence. Donc on a des étés beaucoup plus chauds. Ce qui va faire donc plus de soleil, donc plus de sucre dans les raisins. Et la première fermentation du jus de raisin, c'est la fermentation alcoolique, donc transformation du sucre en alcool. Donc ça, tout le monde a pu l'observer, l'augmentation en alcool dans les bouteilles de vin. Ensuite, ça a d'autres... des étés comme 2020, où on a eu des grosses chaleurs sans pluie avant les vendanges, ça va faire des raisins donc avec plus de sucre, mais aussi avec moins de jus. Donc ça fait des rendements plus petits, quoi. Ensuite, il y a les épisodes de gel. L'année dernière, nous, on a gelé à 40-50%.
Donc de gel tardif, vous voulez dire?
Printanier, le gel n'est pas tardif, en fait. Le problème, c'est que...
Tardif par rapport au creux de l'hiver, quoi.
Oui, c'est surtout l'hiver, mois de février et mars, où on a eu des températures de 25, 26, 27 degrés. Donc la sève est remontée, les bourgeons sont sortis, ce qui n'est pas du tout normal à cette période, de façon très précoce.
3 semaines
d'avance. Et après, le gel avant les 5 glaces, classique, normal, qui lui n'a pas changé et qui détruit tout, quoi.
Et quand même, ce dont se plaignent les gens, enfin à la campagne, enfin les gens qui sont dans la culture, le fait qu'il n'y ait pas d'épisode de gel en hiver et qui amène quand même la destruction d'un certain nombre de nuisible dans le sol. Est-ce que ça vous pensez que ça a une importance?
Oui, alors que les hivers soient moins froids, ça a une importance sur les nuisibles, oui. Mais surtout, c'est que la vigne se met beaucoup moins en repos. Quand il y a des épisodes de froid, comme on a eu cette année, tant mieux. La sève descend plus bas et la vigne se repose bien mieux, quoi. Mais voilà, en gros, on a des hivers moins froids, des printemps plus chauds, des épisodes pluvieux plus nombreux au printemps, donc c'est pas très bien pour les champignons, et des étés caniculaires avec beaucoup plus de sucre.
Est-ce que le vignoble tel que vous l'avez ici, vous pouvez envisager de l'étendre? D'abord, est-ce que la réglementation vous le permet? Ce que je ne sais pas du tout. Mais est-ce que vous pensez que vous pourriez augmenter votre production?
Oui, on pourrait, mais je crois qu'on ne veut pas. Non, on va rester avec nos 3,5 hectares, un petit peu dans la même idée de ce que je vous disais au début. C'est que nous, ça nous fait une production qui est intéressante à distribuer, suffisante pour qu'on en vive, sans partir aux quatre coins du monde pour arriver à vendre notre production. Cet esprit de local, c'est viable et c'est local, ça nous va, c'est dans notre esprit.
Là, vous avez aucune difficulté pour écouler votre production?
Aucune.
Vous avez des difficultés qui ne sont pas insurmontables?
Non, voilà, c'est vraiment à échelle humaine et à échelle locale. Donc non, ça passe bien, on vend bien nos bouteilles, on les valorise bien. Donc, économiquement, c'est peut-être plus toi, Olivier, qui peux dire. Mais
si ce n'est pas un secret, quel est le profil de votre clientèle?
Alors, on doit faire 20% de clientèle professionnelle, donc bar à vin, restaurant. Et le reste, c'est une clientèle particulière. Voilà, donc je fais 2 marchés par semaine, le samedi et le dimanche. Et puis après, le bouche à oreille, les gens viennent au domaine, on est dans des systèmes de vente de circuits courts, comme un truc qui s'appelle Cagette. Voilà, on a développé pas mal de systèmes, et avec le no-tourisme, ça fait venir beaucoup de monde à la propriété. Et puis, il faut avouer qu'on a la chance d'être dans une région hyper touristique, et les gens sont avides de découvrir des vignobles et de passer du temps à partager avec le producteur.
Parce que, alors, malheureusement, le temps est déjà passé. Donc, je vais finir en vous posant une dernière question. Est-ce que vous êtes des vignerons heureux, Véronique?
Ah, moi, je suis une vigneronne super heureuse. Oui. Ah, mais vraiment. Je suis bien que là, moi.
Pas tourmentée quand même trop par le changement climatique, par les aléas que nous a valu la pandémie.
Préoccupée plus que tourmentée, mais très, très préoccupée écologiquement, ça, c'est sûr. Et puis la pandémie, ça en découle aussi, oui. Enfin voilà, de toutes ces perturbations. Mais nous, on essaye justement d'agir à notre petite échelle sur un respect de la biodiversité, de l'écologie et de l'environnement. Et ma petite brique, petite brique.
Dans la même veine d'une meilleure entente avec la nature.
C'est ça.
Olivier?
Oui.
Je suppose que vous allez me dire que vous êtes heureux aussi.
Oui, tout va bien. Bon, moi, ça dépend un peu de l'humeur de Véronique. Mais non, c'est un métier qui me plaît énormément.
Merci beaucoup Véronique, merci Olivier,
merci.
Et bonne continuation.
Merci bien.
Avec des succès, des grandes réussites.
Merci.
Merci.
C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François. Apporte l'or.